France Inter.
Ce soir, c'est très particulier. Voici 80 ans, jour pour jour, naissait le 12 novembre 1945 dans la ville de Toronto au Canada, un auteur, compositeur et interprète dont la voix et les chansons ont défié le temps et l'oubli. Je veux parler bien sûr de Neil Young. Neil Young, un auteur unique, sa tendresse jamais mièvre, sa voix d'enfant meurtri, cet équilibre si particulier chez lui entre douceur et colère, parfois même fureur, dans les mots d'ailleurs comme dans les sons, voilà autant de qualités qui le mettent tout à fait à part. Tout comme son amour de la nature, ses combats très en avant sur son temps pour diverses causes liées à l'écologie. Alors pour toutes ces raisons, nous tenions à rendre hommage ce soir à Neil Young à France Inter et j'ai choisi de vous faire entendre à nouveau une émission ancienne dont on me parle souvent et même d'ailleurs très souvent quand je rencontre des auditeurs, honnêtement d'ailleurs plus des auditeurs que des auditrices, souvent on me parle de cette interview qui est presque devenue légendaire de Neil Young. Alors en effet c'est une rencontre qui a eu lieu en 2016 et qui m'a marqué autant qu'elle a marqué certains d'entre vous, une rencontre mouvementée et romanesque, voire cinématographique avec Neil Young, qui s'est déroulé donc un beau jour de juin 2016, il y a donc un peu plus de 9 ans, c'était près de Los Angeles, près de là où il habite. Un moment assez baroque, hein, vous entendrez pourquoi, qui a totalement dépassé, à un moment donné, le cadre conventionnel de l'interview promotionnelle. Neil Young s'apprêtait alors à donner une série de concerts en France, il avait un nouveau groupe, hein, il en parle. Personnellement, je l'avais jamais rencontré, j'étais très très intimidé, d'autant que pour être honnête, je ne connaissais pas son œuvre sur le bout des doigts. J'avais raté des épisodes et je me rappelle avoir lu fébrilement dans l'avion son livre de mémoire que je venais de télécharger au dernier moment sur une liseuse. Vous allez ainsi entendre ou réentendre, pour certaines d'entre vous, une rencontre que je n'hésite pas une seconde à présenter comme historique. En tout cas, elle l'a été pour moi. Donc, ne soyez pas surpris si vous entendez des allusions à un certain état du monde ancien, en particulier sur la situation de l'industrie musicale qui a beaucoup changé en 9 ans. Et Neil Young n'avait alors, si j'ose dire, que 71 ans. Mais bon, Neil Young est là, et toujours là, toujours aussi actif, comme l'illustre la chanson-titre de son dernier album en date, paru lui en 2025, qui s'appelle Talking to the Trees.
Today again, like I've never seen you, waiting around for the world to change.
Talking to the Trees, la chanson titre de l'album que Neil Young vient d'enregistrer avec son nouveau groupe, enfin nouveau entre guillemets, The Chrome Hearts, puisque certains des musiciens qu'on entend l'accompagnent depuis longtemps, mais dans une configuration un peu différente. On trouve notamment à ses côtés un vieux compagnon de route, Spooner Oldham, un musicien de légende. C'est l'homme qui jouait de l'orgue à Muscle Shoals dans l'Alabama aux côtés de Aretha Franklin à la grande époque de la soul. Et puis il y a un nouveau, c'est Mike Nelson, un guitariste qui n'est autre que le fils d'une autre légende, alors toujours vivante, il a presque 100 ans aujourd'hui, Willie Nelson. Enfin, nouveau. Mike Nelson s'était déjà joint comme invité spécial au groupe de son frère aîné, Lucas, Promise of the Real, pour accompagner Neil Young en tournée en 2016. Et je me rappelle très bien avoir assisté cette année-là à un concert magique à Lyon, à la halle Tony Garnier, où Neil Young, déchaîné à la guitare électrique, avait pour ainsi dire soulevé de taire le public. C'était en juin 2016, l'année justement où a eu lieu cette rencontre dont je vous parlais et que je vous propose à présent de réécouter en hommage, on lui devait bien ça, aux 80 ans de Neil Young.
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
Alors, deux soirs avant de le voir de près, j'ai pu voir Neil Young chanter sur la scène d'une très belle salle légendaire hein, à Los Angeles. C'est le Pantages Theater, c'est sur Hollywood Boulevard. C'est un magnifique ancien cinéma art déco où autrefois, jusqu'à la fin des années 50, on célébrait, je crois bien, la cérémonie des Oscars. Neil Young était programmé là pour clore un spectacle qui était destiné à lever des fonds en faveur d'une association qui s'appelle Autism Speaks, hein, l'autisme parle. Le but de cette association, c'est d'aider les enfants et adolescents victimes d'autisme à s'insérer dans la société, et puis aussi d'éduquer leurs parents afin qu'ils sachent eux-mêmes comment faire avec leurs enfants handicapés. C'est un sujet auquel Neil Young est extrêmement sensible parce que, enfin, une partie d'entre vous le sait peut-être, il est le père de deux fils qui souffrent d'une infirmité motrice cérébrale, le second, Ben, étant tétraplégique et incapable de parler. Et son vieux camarade, Steve Stills, était là, lui aussi, assurant une partie de la présentation du spectacle. La vie ne l'a pas épargné non plus, puisque un des fils de Steve Stills a été victime, il y a une vingtaine d'années, d'un grave accident de snowboard, et puis un autre souffre du syndrome d'Asperger qu'on assimile à l'autisme. Alors ça rendait d'autant plus émouvante et intense la présence de deux autres des fils de Steve Stills sur scène, Chris, hein, celui qu'il a eu avec Véronique Sanson. D'ailleurs, une vraie révélation pour moi, Chris Stills, un chanteur et guitariste admirable et qui a d'ailleurs a chanté une composition nouvelle au clavier, assez proche du style de sa mère, et ça m'a vraiment ébloui. Et puis, il y avait son dernier fils, Oliver, tout petit, hein, 11 ans seulement, qui accompagnait avec un sérieux merveilleux tous les musiciens qui se succédaient. Et puis, Neil Young est arrivé à la fin avec son grand chapeau dans la pénombre, à pas compter comme un cow-boy solitaire, armé de sa guitare sèche et d'un porte-harmonica. Et il a commencé à chanter Heart of Gold. Et je peux vous dire que j'ai eu un des grands frissons de ma vie. Parce que l'autorité de sa présence, la force de sa voix, que je trouve personnellement plus ferme et plus forte qu'au temps de sa jeunesse, l'intensité même qui émane de lui, c'est quelque chose que je renonce à décrire. Tout le public s'est levé, tout de suite, les téléphones portables se sont mis à scintiller, chacun était suspendu à ses lèvres dans une espèce de vibration invisible. Alors bon, je sais que pour tous les snobs du rock, dont je peux faire partie parfois, je le confesse, Heart of Gold, c'est archi connu, trop connu, c'est la scie qu'on entendait chez tous les lycéens à cheveux longs des années 70, Harvest était même un des trois albums qu'on trouvait chez eux avec un autre, je sais pas moi, de Maxime Le Forestier ou de Cat Stevens, mais enfin, quand on réentend ça, impossible de ne pas fondre, c'est magique. J'ai trouvé une version live pour vous donner une idée, elle remonte à 1986, mais en vrai, c'est bien au-delà. Heart of Gold, enregistré dans la région de San Francisco il y a 30 ans déjà. Alors, Neil Young vit depuis plusieurs années déjà une nouvelle jeunesse. Il a maintenant un nouveau groupe, Promise of the Real, dont l'élément principal est le guitariste Lucas Nelson, une petite trentaine d'années. C'est un Californien qui a été élevé par son père, Willie Nelson, une légende vivante de la musique populaire américaine et un grand ami de Neil Young, puisque ce vieux manouche hippie de la musique country, hein, il a plus de 80 ans aujourd'hui, a fondé il y a une trentaine d'années l'événement annuel Farm Aid, un événement qui est destiné à lever des fonds pour les fermiers américains menacés par la ruine consécutive à leur endettement et puis d'autres causes aussi pour les soutenir. Alors, c'était d'ailleurs il y a 30 ans déjà avec Neil Young. Alors, avant de vous faire entendre la voix de Neil Young, il faut que je vous raconte comment s'est passée ma rencontre avec lui, parce que c'est pas très banal. Je suis allé le trouver dans la maison de son manager et ami Elliot Roberts, qui travaille avec lui depuis près d'un demi-siècle. Roberts possède une grande propriété à Calabasas, c'est un magnifique coin de verdure vallonné à une heure à l'ouest de Los Angeles. J'arrive et un portail géant en bois sombre s'ouvre devant ma voiture. Je pénètre, un peu intimidé, hein, vous l'imaginez, dans cette maison dont les pièces immenses font au moins 4 mètres de hauteur sous plafond. Dans une sorte de très vaste salon bibliothèque, un petit guéridon a été arrangé autour de 2 fauteuils en rotin, face à une immense cheminée. Et dans un coin de la pièce, il y a un piano à queue, sous lequel sont rangées une demi-douzaine de guitares dans leurs étuis rigides. Il y a un dessin représentant un jeune Bob Dylan qui est accroché près de la fenêtre. Et Neil Young apparaît, il a une présence massive, il fait près de 1m90, il porte un pantalon noir, large, plutôt informe, une casquette noire de vieux mécano, et son visage tombant est complètement inexpressif. Il y a quelque chose en lui, c'est ce que je me dis à ce moment-là, du vieux chef indien. Il s'assoit dans le fauteuil d'un air morose, l'air absent, et avant même qu'on commence l'interview, j'ai eu un aperçu de la façon dont il travaille en studio. Le réalisateur de cette émission, Lilian Allôme, m'a confié à Paris un petit magnétophone prolongé d'un micro, hein, coiffé d'une bonnette rouge. Et j'explique à Neil Young que je vais être obligé de lui mettre mon micro à une dizaine de centimètres de sa bouche pour que le son soit bon. Il me regarde fixement et me dit non. Mais ça n'a rien d'agressif, hein. Tout de suite, il se lève et il va chercher un objet qu'il a repéré. C'est un jouet d'enfant, une sorte de mini cage de hockey, qui est posé près du piano. Alors il la dresse entre nous, hein, posé sur la tranche, et puis il fait pendre le micro entre 2 mailles du filet. Il fixe tout lui-même avec la dextérité d'un vrai bricolo, que je ne suis pas, et il demande à un de ses assistants de lui apporter du gros scotch. Et voilà, en moins d'une minute, le problème est réglé, par Neil Young lui-même. Alors au début, je me dis que c'est une bonne idée de commencer par l'interroger sur la situation politique aux États-Unis, puisque dans son récent livre autobiographique, Waging Heavy Peace, on pourrait dire mener une paix sans répit, hein, ça a été traduit chez nous sous le titre Neil Young, une autobiographie, il écrit ceci. Il y a 10 ans, en 2006, il a fait une tournée avec ses camarades Crosby, Stills & Nash pour jouer les chansons de son album Leading Wave War, où il s'en prenait avec fougue à la décision de l'ex-président George Bush Jr. d'envoyer des troupes faire la guerre en Irak. Eh bien, son public était divisé. Certains ont applaudi, d'autres ont sifflé. Et même s'il est resté citoyen canadien, Neil Young, il a une voix qui se fait entendre dans le débat public. Il ne se prive pas de la faire entendre dans le pays où il réside depuis 50 ans au moins. Alors je lui parle de la division actuelle aux États-Unis entre partisans et adversaires de Donald Trump. À l'intérieur même du camp démocrate, il y a une division entre les partisans de Hillary Clinton et ceux de Bernie Sanders. Et je lui cite même une chanteuse, Cyndi Lauper, qui dit que si Trump est élu, eh ben elle va émigrer au Canada. Alors je demande à Neil Young, et vous, ça vous a traversé l'esprit ? Silence. Le visage ne bouge absolument pas. Une voix un peu nasillarde me répond « J'envisage pas vraiment quelque chose de ce genre. J'irai partout où je veux aller. » Silence. Et moi, un peu déconcerté, pas de commentaire alors. Et lui, si. Mon commentaire, c'est que j'irai partout où je veux aller et que je ferai tout ce que j'ai envie de faire, quelle que soit la personne qui est élue. Silence. Pendant quelques minutes, j'essaye de le faire réagir sur les massacres du 13 novembre à Paris, par exemple. Réponse. C'est le monde dans lequel on vit. Moi, je crois juste en l'amour. Je suis sans peur. Une question sur Bowie. Bowie, c'était un grand artiste de scène. Silence. Sir Prince y réagit à peine plus, jusqu'à ce que je lui rappelle que Prince avait acheté la chambre d'écho d'un studio de Los Angeles, Sunset Sound, où Neil Young avait travaillé il y a bien longtemps, et que Prince l'avait transformé en salon. Et là, vous allez entendre Neil Young à rigoler.
From some studio in LA and turned it into a lounge. This is what you wrote.
Yes, at the studio. Yeah.
Yeah, and he seemed to share.
He didn't buy it.
Il l'a pas acheté.
He changed it.
Il a simplement transformé.
So he didn't use it as a sound device.
No, he was into digital.
Il était en fait branché par les effets numériques. Donc c'était, il faisait de l'écho numérique. Il l'a simplement utilisé comme salon.
And
it was one of the greatest echo chambers in Hollywood.
Une des meilleures chambres d'écho de Hollywood, c'était Sunset Sound. J'ai enregistré là plein de fois. C'est la chambre d'écho dans Expecting to Fly. Je ne sais pas si vous connaissez ce disque, mais c'est un de ceux que j'ai fait avec Jack Nitzsch. Prince, en tout cas, c'était un grand artiste par-dessus tout. C'est ce qu'il était, un vrai artiste. Est-ce que Prince a été important dans votre musique ? Parce que l'élément noir et funky a toujours été important pour vous. Vous avez souvent souligné l'importance de Bruce Palmer, votre bassiste dans Buffalo Springfield, qui jouait dans un style très Motown. Oui, mais encore une fois, Prince était génial, c'était un artiste extraordinaire. Il a écrit d'excellentes chansons, il a créé d'excellents grooves, très créatif, très très bon. Mais il n'avait pas une importance particulière pour vous. Il comptait beaucoup pour moi, parce que c'était un grand artiste, et ça, ça a beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. Et puis, il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. Alors, il faut que je vous explique. Neil Young, ça fait des années qu'il est en lutte contre la qualité audio qu'il juge très médiocre des actuels baladeurs qu'on utilise, un téléphone ou autre. Alors, selon lui, et là, tout le monde est d'accord, hein, ces appareils ne restituent que très pauvrement la qualité sonore de départ, hein, initiale, des enregistrements musicaux qu'on écoute. Il a donc entrepris de développer, avec une équipe de spécialistes, une plateforme de téléchargement et un baladeur qui permettent d'écouter chansons et albums en haute résolution sonore. Donc comparable à ce qu'on entend dans un studio d'enregistrement. Alors bon, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques, c'est un domaine que je suis loin de maîtriser, mais enfin, depuis un an et demi, Neil Young est l'inspirateur et le champion d'un baladeur qui s'appelle le Pono, hein, P-O-N-O, c'est un mot qui vient de la langue hawaïenne, parce que bon, Neil Young a longtemps vécu sur une île à Hawaï, et ce mot signifie « juste et pur ». Alors le Pono, ça coûte 350€ environ, hein, c'est pas rien. Et alors bon, en tout cas, pour me faire écouter son nouvel album, le management de Neil Young m'a passé un Pono et un casque de qualité exceptionnelle. Et j'ai été très étonné parce qu'on entendait Neil Young et le groupe très très loin, comme si, pour ainsi dire, ils jouaient dans un placard à balai. Et il y avait au-dessus de tout ça des cris d'animaux très clairs de temps à autre, bruit du vent, de l'eau, des insectes, enfin voilà. Et puis des voix féminines diaphanes qui faisaient des harmonies vocales de temps à autre. Alors bon, je savais que Neil Young avait déjà fait des expériences sonores très audacieuses, notamment il y a une bonne vingtaine d'années. Je me suis dit, quelle audace incroyable, c'est très inattendu. Alors je commence à lui décrire l'étonnante expérience que j'ai faite. Et là, il semble très intéressé, beaucoup plus présent. Et puis très vite, il comprend. Il me dit, mais on ne vous a pas fait les bons réglages. Alors vous savez quoi ? Apportez-le-moi. Je vais vous les faire, moi, les réglages. Alors il se lève, il commence à engueuler son équipe, enfin gentiment. Écoutez les gars, c'est pas lui de le faire, hein, vous auriez pu vous en occuper, etc. Il règle le problème et il me dit, vous savez quoi ? Vous allez écouter l'album maintenant et puis on va se retrouver tout à l'heure pour parler de tout ça et du reste. Et il se barre. Alors moi, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je reste tout seul dans le grand salon bibliothèque du manager avec les volets fermés. Je m'étends sur une banquette qui est collée à la bibliothèque, je mets le casque, je ferme les yeux et je pars pour un grand voyage magique dans la musique de Neil Young. Hein. C'est un concert récent qu'il a fait avec certaines de ses chansons les plus connues. Alors c'est comme si je redevenais l'ado du milieu des années 70 qui écoutait ses albums de musique planante au casque. Et puis après, bah, pour retrouver Neil Young, j'ai fait un autre voyage que je vous raconterai tout à l'heure.
Silver sea to a new home.
Une très belle version de After the Gold Rush, interprétée par Neil Young avec son groupe de jeunes accompagnateurs, Promise of the Real, dans son tout nouvel album live, Earth, qui sort dans quelques jours. À l'origine, c'était la chanson-titre d'un album paru en 70, qu'il a enregistré au studio Sunset Sound, dont il nous parlait tout à l'heure, avec Jack Nitzsche au piano. Alors je vous parlais du voyage que j'ai fait à la rencontre de Neil Young, c'est à prendre au pied de la lettre. Parce que quand je suis sorti de mon rêve éveillé, là, à 45 minutes à écouter au casque son étonnant album live, où il reprend pas mal de ses classiques comme Vampire Blues ou Human Highway, j'ai rouvert les yeux et j'ai découvert dans la pièce qui était devenue pour moi comme un vaisseau spatial, où j'avais fait tout ce voyage, la présence de deux assistants du manager de Neil Young. Ils m'ont expliqué que Neil était reparti chez lui, mais qu'on allait le retrouver là-bas. Mais où ça précisément, j'ai demandé. Ils m'ont dit dans sa voiture. On va l'attendre à un endroit où il y a un très beau point de vue sur la mer. Il veut que vous contempliez cette vue et il va nous rejoindre. Suivez-nous, c'est pas loin. Alors intrigué, excité, je me mets en sandwich entre deux voitures et on fait un mystérieux convoi en route par des routes qui montent et qui descendent, qui roulent vers l'ouest. Le paysage est somptueux, la mer, on a l'impression qu'elle est absolument partout. On roule au moins 45 minutes et on s'arrête comme pour un étrange rendez-vous d'agent secret au bord de la route où le point de vue, c'est vrai, est absolument magique. On est pas loin de Encino Canyon Road, là où je crois habite désormais Neil Young. Et en bas, il y a la plage de El Matador, et puis un peu plus loin, celle de Zuma, qui a donné son titre à un célèbre album de Neil Young. Et un de mes deux guides parle dans un portable. Neil arrive, Neil est dans 5 minutes, Neil est tout prêt. Et je vois arriver, à une lenteur majestueuse, une Cadillac blanche antédiluvienne, qui se range à quelques mètres de nos voitures avec un de ces ronflements graves, inimitables des voitures d'autrefois. Au volant, Neil Young, en lunettes noires, avec sa casquette. Alors je m'imagine, c'est pas difficile dans un film de Jim Jarmusch. Alors il sort, il sourit, il contemple brièvement la vue, il échange deux mots avec les deux gars, et puis on m'invite à monter, non pas dans la voiture de Neil Young, alors là, on dirait que c'est un espace sacré. Enfin, j'ai quand même le temps de regarder à l'intérieur, à la Cadillac, dans un état impeccable, et on s'assoit dans la voiture d'un des deux assistants, l'un à côté de l'autre, face à la mer, moi au volant, et lui dans le siège du passager. Je glisse le micro dans l'encoche du pare-soleil au-dessus de lui, et je le laisse comme ça pendouiller. Alors, voilà. Alors, juste un mot d'explication, parce qu'il fait des allusions à sa nouvelle vie. Il y a 2 ans, Neil Young a quitté la femme avec qui il était marié depuis 34 ans, son ancienne choriste Peggy Morton, une auteure, compositrice, interprète réputée. Il a quitté son ranch de la région de San Francisco, où il vivait depuis le début des années 70. Il a vendu sa maison de Hawaï, où il passait une bonne partie de son temps, et il a entamé une nouvelle vie avec celle qu'il appelle sa girlfriend.
So, Neil, you've got to tell me about this car.
Alors Neil, il faut que je sache dans quelle voiture vous êtes arrivé. C'est un coupé Cadillac de 1957, modèle Eldorado Biarritz. Ah ouais, mais vous l'avez acheté quand? Oh, ça fait environ 25 ans.
About 25 years ago.
So you have mais vous avez beaucoup conduit avec elle ou elle reste souvent au garage?
Non,
je la conduis tout le temps. En fait, je conduis plus ma voiture électrique, la Lincoln. J'ai fait 55 000 miles avec celle-là. Et là, je lui demande combien de voitures il a. Alors, il y a un ding-ding qui indique que la ceinture n'est pas mise. Je ne sais pas comment il fait pour enlever le bruit. Et il me répond, oh ben, j'ai à peu près 4 ou 5 voitures maintenant. Mais alors, vous avez vendu les autres? Ouais, ou bien c'est en cours. Pourquoi, je lui demande. Pourquoi vous en êtes débarrassé? Bon, j'ai nulle part où les mettre, j'ai déménagé dans un nouvel endroit, j'ai pas de place. J'avais beaucoup de choses matérielles, ça signifie plus grand-chose pour moi comparé à d'autres. Les complications, pas besoin de ça. Mais je lui dis, mais vous voulez dire que vous avez un stade où il me coupe? Ouais, je simplifie. Vous simplifiez les choses dans votre vie? Oui. Vous avez vendu votre maison à Hawaï? Ouais, tout ça, et puis tout a changé. Alors je commence à lui parler de l'expérience que j'ai eue à écouter son album, enfin cette fois dans la bonne version. Je lui dis que voilà, que j'avais l'impression d'être dans un vaisseau spatial, j'ai écouté complètement au casque, dans l'ordre, du début jusqu'à la fin, et je dois lui dire que enfin, c'est la première fois depuis très longtemps que j'écoute un album dans l'ordre. Alors lui, là, tout à coup, il est intéressé, il me fait Et je lui dis, alors c'est une chose importante, parce que vous avez été l'inspirateur d'un nouveau lecteur audio haute résolution, le Pono. Vous voulez pas que les gens, en fait, picorent dans les chansons, et vous voulez qu'ils écoutent un album entier, que ce soit une expérience globale.
As a full experience.
Oui, j'aimerais que les gens aient la possibilité d'entendre vraiment ce qu'ils écoutent. Et ça ne peut pas se produire avec les iPods et les téléphones, parce que leur système de reproduction sonore, pour le moment, simplement n'est pas assez bon. Alors je ne me fie pas à leur niveau de qualité. Alors je lui dis oui, mais enfin, est-ce que pour vous c'est aussi simple qu'une question de haute résolution, de basse résolution? Est-ce que aussi la musique n'est pas plus quelque chose de décoratif dans la vie des gens, que c'est pas aussi central qu'autrefois?
And you think that because it's going to be high resolution, people are going to feel that music is more important. Do you think it's just only the only reason, the sole reason?
I just don't, I really don't care about all
of that. Puis il me dit, franchement, ça m'est égal tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ça sonne vraiment bien. Moi, je fais ça, ça sonne vraiment bien. Et si vous avez envie de l'entendre, bah, c'est la bonne façon de le faire. Tout le reste, je ne vends même pas à iTunes. Je n'ai pas de version de ce disque à offrir à iTunes. Ah bon, je lui dis, non, il ne sera pas disponible sur iTunes. Mais alors, je lui dis, mais comment ils vont l'acheter, l'écouter, les gens? Il dit, j'en sais rien, peut-être qu'ils devront en faire une copie pour l'écouter sur iTunes, mais moi, je ne leur vends pas. La qualité n'est pas bonne. En plus, iTunes est incapable de reproduire cet album. On serait obligé de s'arrêter après chaque chanson, et certaines chansons sont trop longues, alors l'opération serait impossible. Alors je dis, mais oui, mais surtout la dernière qui fait 30 minutes. Non, mais il dit, mais non, il y en a plusieurs qui dépassent la limite. Alors moi, j'en ai marre que les compagnies informatiques m'expliquent ce que je dois faire. Le son est mauvais, ils rendent toutes les chansons uniformes, ça fait ressembler ce que vous faites à ce que fait tout le monde, chaque chanson se ferme en fondu de la même façon, puis après ça remonte de la même façon, c'est eux qui décident de la durée des blancs entre les chansons, tout est à l'envers avec eux. Alors moi, je ne fais plus ça. Alors je lui dis qu'il a été soutenu par pas mal de ses confrères musiciens qui ont soutenu le lecteur audio, le Pono. Mais il dit, c'est pas que le lecteur, c'est la musique elle-même. C'est la musique. C'est un fichier musical différent. C'est bien plus lourd. Mais il n'y a aucun problème pour le stocker aujourd'hui. On est au 21e siècle. Ça coûte rien de stocker de la mémoire. Des fichiers lourds, c'est pas un problème. Il y a 20 ans, oui, c'était un problème. Et tout le monde a l'air d'être encore coincé au même point. Moi, je suis pas coincé là, vous savez. Je sais pas comment les gens vont avoir cet album. Mais je sais que je vais pas leur vendre pour ce niveau de qualité-là. Je veux dire, je fais de vrais albums. Mais je lui demande, mais alors ça va être le cas pour vos enregistrements passés? Il dit, ça va être le cas.
It will, in the long run.
Yeah.
Mais vous aviez l'air de dire dans votre bouquin là que un jour ou l'autre iTunes va finir par plier. Est-ce que vous avez progressé dans ce combat?
Standard will prevail. But what you are sure about is that at some point iTunes will relent. I mean that have you made any progress?
I'm not sure. I don't know why iTunes.
Je vois pas pourquoi iTunes céderait. C'est un produit de consommation au faible niveau de qualité. Ça aide à faire plein de choses qui sont très bien, mais pas l'audio. L'audio, ça n'en fait pas partie. Moi, je ne fais pas campagne pour changer Apple. Je me suis déconnecté de Apple. Ils ne vendent pas la qualité que moi, je fabrique. Mais moi, je lui demande, mais alors, vous avez essayé de les convaincre ?
Non.
Et non.
I spoke to Steve.
Mais j'ai parlé avec Steve Jobs. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, c'est une compagnie qui est du côté du consommateur. Mais je lui dis, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire faible qualité. Ah, je rigole, évidemment. Mais il me dit, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé, mais comment vous allez reproduire les fichiers haute résolution? Et il m'a répondu, on va faire un truc pour qu'ils sonnent vraiment bien. J'ai dit, non. Comment vous allez les reproduire? C'est ce que nous, on a fabriqué. On l'a fabriqué. C'est de l'art. On l'a fait. Vous n'avez pas à intervenir dessus. N'en faites pas quelque chose de médiocre. Et il m'a dit, non, on ne peut pas faire ça, on est du côté du consommateur. Et je lui ai dit, mais comment vous allez changer le DAC? Il faut mettre un bon DAC là-dedans pour qu'on puisse entendre. Vous savez ce que c'est un DAC? Alors je lui ai dit, bah non, alors c'est rien. Et il m'a dit, digital to analog converter, convertisseur de numérique en analogique. Ok, alors il faut en mettre un bon dans un lecteur. Et le lecteur, pour eux, c'est le téléphone. Et mettre le convertisseur dans le téléphone, eh ben c'est trop cher. Ça peut coûter $1 de plus, peut-être $2 de plus. Et moi je lui ai dit, on est quoi? Ça c'est trop cher pour eux. Oh que oui, si vous vendez 50 millions de produits, c'est une incroyable somme d'argent. Alors c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Et bon, c'est leur prérogative, pas la mienne. À ce stade, je m'en fous. Là où je m'en fous pas, c'est que je suis arrivé à un point où moi, je décide de ne plus leur vendre. Je le vendrai pas, c'est tout. Si personne arrive à l'entendre, moi, tant que j'arrive à le fabriquer, ça je m'en fous pas. C'est disponible. Si vous voulez le télécharger vous-même, trouver quelqu'un qui possède un Pono, le copier, en faire une version MP3, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire une copie à partir d'un CD, en faire un MP3. Moi, je ne vends aucune qualité inférieure à celle du CD. Mais je lui demande, vous avez essayé de convaincre d'autres entreprises? Non, il dit, je m'en fous. Je suis incapable de convaincre qui que ce soit de changer quelque chose qui rapporte un bénéfice. C'est une question d'argent. Je ne peux pas écouter la merde qu'on diffuse dans cette bagnole, par exemple. J'écouterai pas ça. Bluetooth, ça m'intéresse pas.
Distance, the rockets' red glare.
Western Hero, une chanson interprétée par Neil Young avec son nouveau groupe Promise of the Real. À l'origine, il avait enregistré cette chanson pour son album de 1994, Sleeps with Angels, où il avait rendu hommage à Kurt Cobain. Kurt Cobain qui avait cité dans sa lettre d'adieu, hein, au moment de son suicide, ce passage de la chanson Hey Hey My My de Neil Young, It's better to burn out than it is to rust, hein, mieux vaut brûler une fois pour toutes que de rouiller. Alors j'ai interrogé Neil Young sur l'importance que ça avait pour lui de jouer avec de jeunes musiciens, en quoi était-ce pour lui nécessaire, vital, puisqu'il a un groupe fantastique, hein, Crazy Horse, et puis des partenaires exceptionnels depuis près de 50 ans maintenant, Crosby, Stills and Nash, et puis il joue encore très régulièrement d'ailleurs avec Steve Stills, d'ailleurs qui cite comme son musicien préféré de tous les temps.
But it's not the first time you have been playing with young.
Mais c'est pas la première fois que vous jouez avec des musiciens plus jeunes aussi.
It's not the first time.
Non, right. C'est pas la première fois. Alors c'est quoi la différence?
They're great musicians.
Bah, c'est des grands musiciens.
Yeah.
Ouais.
They're from they have the sound.
Ils ont le son, ils ont le feeling, ils sont sans peur. C'est tout. Très simple.
Very simple.
Et mais en quoi c'est différent de jouer avec eux plutôt qu'avec Crazy Horse?
Than with Crazy Horse.
I mean, I don't compare.
Je compare
bands.
Pas les groupes.
Yeah, okay, but
bon, d'accord, mais vous auriez pu jouer les mêmes chansons avec Crazy Horse.
Perform the same songs with Crazy Horse or not?
Not some.
Certaines non. Bah pourquoi?
Pourquoi?
Parce que c'est pas ce que joue Crazy Horse. Comme Crosby, Stills, Nash & Young, ils ne pourront jamais jouer ce que joue Crazy Horse. Et Crazy Horse ne pourra jamais jouer ce que joue Crosby, Stills, Nash & Young. Alors moi j'insiste, mais oui, mais dans cet album, il y a des choses quand même qui sont plus proches de ce que fait Crazy Horse. Ouais. Bah c'est pour ça que je vous demande. Eh bien, ils peuvent jouer les deux.
Okay.
Ils peuvent jouer beaucoup de choses. Tout ce que je veux.
Ben
ouais, je lui dis l'étendue est vaste.
I mean, the scope is very wide.
Yeah.
Je lui dis, certaines chansons sont folk, country. Ils connaissent plus de chansons de moi que l'addition de tous les groupes avec lesquels j'ai joué jusqu'à maintenant. Je lui dis, ah ouais, mais c'est parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont été exposés dès l'enfance à votre musique. Mais j'étais jeune, moi, quand je jouais avec ces groupes. Et pourtant, ils ne savaient pas les jouer. Ils ne les connaissaient pas. Si vous prenez toutes les chansons de moi que connaissent Crosby, Stills and Nash & Young et toutes les chansons de moi que connaît Crazy Horse, qui savent effectivement jouer, et toutes les chansons de moi que faisait Buffalo Springfield, et si on faisait la comparaison à n'importe quelle période, eh ben, on n'atteindrait jamais le nombre de chansons de moi que celle que Promise of the Real sait jouer. À n'importe quelle période, je déroule n'importe quelle chanson, ils savent la jouer. Comme ça, mon intérêt ne faiblit jamais, je m'ennuie jamais, j'ai un contrôle total sur la chanson que je vais enchaîner. Et la liste des chansons de moi qui sont capables de jouer est bien plus longue que celle de tous les groupes avec lesquels j'ai joué.
You were talking, I mean, writing.
Ah, là, j'aborde un autre sujet qui est le fait que dans ses mémoires, il raconte qu'au début des années 2010, il était à Hawaï, qu'il a arrêté de fumer de l'herbe et que brusquement, il n'arrivait plus à composer de chansons. Que ça lui est arrivé, ça est venu, ça s'est desséché et que pendant plusieurs années, il s'est retrouvé. Pour se dire stérile. Alors je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes remis à fumer pour composer à nouveau? Alors il me répond. Non, il me dit, ouais, c'est vrai, j'ai pas écrit beaucoup de chansons, mais j'ai recommencé. J'ai écrit beaucoup de chansons sans fumer d'herbe. Et puis finalement, j'ai tout changé, j'ai recommencé à en fumer. Alors. Au bout du compte, ça ne change rien, puisque d'une façon ou d'une autre, on finit par faire ce qu'on a envie de faire. C'était une expérimentation. Si je ne fumais pas, je me suis aperçu qu'au début, je n'écrivais pas autant. Alors, je lui dis, mais vous avez recommencé à fumer pour ça. Non, non, il dit, c'est revenu, j'ai commencé à écrire davantage. Alors, sans herbe. Non, il dit, sans herbe, sans rien, j'ai commencé à écrire. Et puis, à la fin, ça s'est accéléré, parce que j'avais plein de choses à dire et il fallait que ça sorte. J'y suis revenu. Il dit oui, il fallait que je fasse un peu le tour de ce qui se passait. C'est revenu. Puis indépendamment de ça, j'ai décidé de me remettre à fumer, mais au fond, rien de tout ça ne change quoi que ce soit. Mais je lui dis, quand même, vous avez écrit le livre, vous avez l'air de suggérer que ça avait changé quelque chose. Oui, j'ai suggéré que j'écrivais pas alors que j'avais arrêté de fumer. Mais après un certain temps, je m'y suis remis. Et je crois, vous savez, c'est ce qui s'est passé, c'est revenu. Il y a une belle vue d'ici. Hein. Alors à ce moment-là, bon, on est revenu à l'album et je lui ai parlé de l'impression que ça a produite sur moi. Et il dit, je lui dis, Il y a vraiment de l'amour et de la colère à la fois dans ce que vous faites. Voilà ce que j'ai ressenti.
I mean, the love and the anger at the same time. You know, that's the thing I felt.
Love and no fear.
Ouais, l'amour et sans peur. C'est pas de la colère, c'est sans peur. Et parfois, on vous sent en colère. Oui, on me sent en colère parce que je chante sur quelque chose de mauvais. Je suis pas personnellement en colère, je défends simplement ce que j'aime, c'est-à-dire la terre.
Yes,
which is, you know, earth.
Sure.
Alors là, j'aborde le sujet sensible qui est la multinationale de Monsanto, puisque Neil Young a pris fait et cause pour un fermier qui a été attaqué par la firme Monsanto pour avoir réutilisé des semences qui avaient été vendues et sur lesquelles Monsanto a un brevet. Et Monsanto a dit « Ah, mais Neil Young se trompe, ce fermier lui a menti, il faut qu'il vienne nous voir, on va lui expliquer. » Est-ce que vous avez accepté de les voir ?
That he wasn't being candid and honest. And they proposed you to visit Monsanto, and they wanted to convince you. Did that happen? Did you go and see them?
Non,
ça m'intéresse pas de les voir. Mais pourquoi? Parce que eux, ils m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font.
What they do is wrong.
Ce qu'ils font, c'est pas bien. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Je dis, dites-le-moi. Non, je vais pas vous le dire. Vous avez qu'à vous documenter. Alors je protège, je dis non, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais renseignez-vous sur ce qu'ils font. Renseignez-vous et lisez des articles sur Monsanto. Et vous vous ferez votre opinion. Moi, je parle aux gens qui subissent ce qu'ils font. Les fermiers, tous ces gens, je vois bien ce qu'ils font. Je crois pas aux OGM. Je n'aime pas les gens qui vendent des semences et qui vous poursuivent en justice. Si vous avez planté dans votre champ une semence fabriquée par eux. Tout d'un coup, vous cultivez une semence dont ils sont les propriétaires et vous devez leur verser un pourcentage. Moi, je croyais que les semences, c'était un don de Dieu. Je dis oui, ce que vous dire, c'est qu'ils en ont fait une marchandise. Oui, c'est une injustice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je me fous de savoir si c'est le droit foncier. Je me fous de tout ça. Je ne suis pas d'accord, c'est tout. Et puis, je ne suis pas d'accord avec cette science. Il n'y a pas de preuves qui nourrissent les populations de la Terre. La famine est plus forte que jamais. Monsanto n'est pas en train de sauver le monde, ils gagnent de l'argent. C'est ce qu'ils font, un point c'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller chez Monsanto et de passer par leur machine à laver le cerveau. C'est un truc de publicité et de marketing, je n'ai pas à faire ça. Je ne travaille pas pour Monsanto, je me fous de ce qu'ils racontent. Et gardez bien en tête que c'est une corporation gigantesque. Ils disent que j'ai tort, ils le répètent encore et encore de plein de façons. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je dis, je crois en ce que je dis, je ne bouge pas d'un poil par rapport à ce que j'ai dit.
Then, you know, they can do whatever they want. I know who I am. I know what I'm saying. I believe what I'm saying. I stand by every bit of it.
And it seems that, you know, now that you reached the age of 70, things seem to be speeding for you. Some people would retire.
Alors à la fin de l'entretien, je dis maintenant vous avez atteint 70 ans, alors on a l'impression que les choses s'accélèrent pour vous. Hein. Il y a des gens à votre âge qui prendraient leur retraite. Ouais, ben j'en suis incapable. Mais je pourrais. J'en suis incapable à ce moment précis. Et qu'est-ce qui fait que vous pourriez, je lui demande. Ben, je pourrais si j'en avais envie. Pour le moment, j'en ai pas envie, mais je dis pas qu'un jour, je vais dire c'est fini. Je pourrais, parce que je pourrais écrire des livres. Ça dépend de comment les choses évoluent. On ne peut pas prédire ce que va être l'avenir. Je dis, mais vous avez des exemples de grands artistes comme Picasso, je ne sais pas, qui travaillait jusqu'à leur dernier souffle. Hein. Il a eu un sursaut de créativité à un âge très avancé. Là, vous savez, quand il dessinait tous ses satires priapiques, alors il a l'air très intéressé. Je dis, il avait cette immense énergie, ce que vous voyez, travailler comme un maniaque jusqu'à la fin, parce que écrire, ça vous isole. Ce n'est pas la même chose que travailler avec une équipe, c'est l'opposé. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Oui, c'est vrai. Juste. C'est parfaitement juste. Alors si vous en avez marre de travailler avec une équipe et de vous retrouver au milieu de plein de monde, écrire, c'est très bien. Mais ensuite, si vous en avez marre d'écrire, vous pouvez retourner à un travail avec plein de monde. Il n'y a rien d'arrêté. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais simplement faire ce qui marche pour moi.
But
then when you get tired of writing, you can go back and work with a lot of people. So there's no definite, I'm going to do this and I'm going to do that. I'm just going to do what works.
But I must tell you that
alors à ce moment-là, bon, je lui dis pour conclure que je trouve que la veille, enfin l'avant-veille, quand je l'ai vu chanter, que j'avais trouvé très en voix, qu'il pète la forme, qu'on a l'impression qu'il a une nouvelle jeunesse, quoi. Est-ce que c'est comme ça qu'il dirait?
I don't know if it's the how you would put it or...
I don't know either.
Et il me répond, je ne sais pas non plus, et il rigole. Je ne peux pas répondre à ça. Je me sens bien. Je me sens aimé, je me sens aimé dans ma vie, je passe de bons moments, j'aime ma petite amie, j'aime ma maison, mes animaux, tout est bien, c'est chouette.
People sleeping in their shoes. There's a war inside.
Rockin' in the Free World, une chanson extraite de l'album Freedom qui, après une décennie difficile, a relancé la carrière de Neil Young qui était un peu en souffrance. C'était en 1989. Alors à l'origine, Neil Young avait entendu son guitariste Poncho San Pedro réagir après avoir vu des manifestants brûler des drapeaux américains à l'enterrement du, entre guillemets, guide suprême iranien, l'ayatollah Khomeini. San Pedro avait dit, bah dis donc, il vaut mieux qu'on se tienne à l'écart du Moyen-Orient et qu'on continue à faire du rock dans le monde libre. Et Neil Young avait sauté sur la formule Rockin' in the Free World et en avait fait une chanson qui est restée légendaire. Et curieusement, cette chanson est devenue un des hymnes des révolutions qui ont mis à bas, à la fin des années 80, les régimes communistes totalitaires de l'Est. Et d'ailleurs, c'est une des chansons par laquelle on a célébré la chute du mur de Berlin. C'est ainsi que s'achève l'émission de ce soir. Je remercie d'ailleurs beaucoup Lilian Alaume qui avait réalisé alors l'émission. Mais ce soir, c'est Vincent Godard qui a réalisé et mis en onde la contextualisation de cette émission de 2016.